Bonjour à tous, vous écoutez le troisième épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Elmore Leonard. Alors pour commencer, je vais vous lire un extrait d'un des romans d'Elmore Leonard qui s'intitule Les fantômes de Détroit. Un type nommé Booker, truand de 25 ans deux fois condamné, marinait dans sa baignoire vasque quand son téléphone avait sonné. Il avait crié à son garde du corps, le baveux, de décrocher, mais garde du corps, chauffeur et majordome étaient apparemment partis en balade. Hé, la bavouille ! Bon Dieu, y a pas quelqu'un qui va répondre ! La sonnerie retentit une quinzaine de fois avant que Booker sorte de l'eau, enfile son peignoir en satin vert assorti à l'émeraude piquée dans le lobe de son oreille gauche et décroche. Qui c'est ? T'es assis ? Demanda une voix de femme. Le téléphone se trouvait sur une table, près d'un fauteuil en cuir vert. Booker adorait le vert. C'est toi, ma biche ? Dit-il, croyant reconnaître la voix de sa nana, Moselle. T'es assis ? Faut que tu sois assis pour ce que je vais t'annoncer. Chérie, t'as l'air tout drôle, qu'est-ce qui se passe ? Il se laissa tomber dans le fauteuil, remua les fesses pour s'installer confortablement. T'es assis ? Répéta la voix féminine. Ça y est, bordel, maintenant t'accouches ? Je suis chargé de te dire que quand tu te lèveras, trésor, ce qui te restera de d'argent traversera le plafond. Lorsque Chris arriva, un policier en uniforme le fit entrer dans la maison devant laquelle plusieurs voitures du 13e commissariat étaient garées. L'agent informa Mankowski que Booker avait appelé le 911. Prévenu par radio, le flic s'était pointé sur les lieux et, voyant de quoi il s'agissait, avait alerté les gars des stupes. Ceux-ci avaient bondi sur l'occasion d'entrer avec leur chien dans la maison grande ouverte du type. Le flic des stupes conduisit Chris vers l'arrière de la maison en disant « Attends de voir ce que ce dingue a fait à la bibliothèque, putain on dirait une tente !» En effet, de la toile de parachute rayée vert et blanc était drapée du centre du plafond aux quatre murs. La baignoire encastrée, entourée de dalles vertes, bouillonnait au milieu de la pièce. Booker était assis sur un fauteuil de cuir vert dont il étreignait les accoudoirs, les doigts écartés. Derrière lui, des portes-fenêtres s'ouvraient sur un patio. « J'attends !» fulmina le truand. « Vous savez depuis combien de temps je poirote ? Je sais pas où ils sont tous passés. Vous avez vu le baveux ?»« Qui est-ce ? » ?»« Mon garde du corps, il paraît. Bon Dieu, faut que j'aille aux toilettes !» Mankowski s'approcha de lui en regardant le bas du fauteuil. « Racontez-moi ce que vous a dit cette femme au téléphone. C'était ma bonne femme, la garce. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que si je me levais, j'explosais. C'est tout ? Quoi, c'est tout, mec ? Après ça, c'est fini, y a plus rien. Oui, mais vous l'avez cru ? Vous êtes con ou quoi ? Vous vous figurez que je vais me lever pour vérifier ? » De sa vieille veste en tweed beige aux poches déformées, Chris sortit une petite lampe électrique, s'allongea sur le sol et braqua le faisceau de la lumière sur l'espèce d'une dizaine de centimètres séparant le siège du parquet. Rien. Il s'agenouilla, posa la lampe par terre, tira d'une autre poche un conif qu'il ouvrit d'une seule main d'un geste vif. « Hé ! » s'écria Booker en se renversant contre le dossier. « Couvrez-vous, bougonna Mankowski. Je m'en voudrais de vous couper quelque chose. Faites gaffe, hein !» Lâchant les bras du siège, Booker remonta les pans du peignoir entre ses jambes nues contre son bas-ventre. « Vous sentez quelque chose en dessous de vous ?»« Quand je me suis assis, j'ai senti que c'était pas comme d'habitude. » Chris fendit le tissu du coussin, écarta les bords et regarda l'intérieur. « Ça veut dire quoi ?»« Me faites pas chier avec vos « qu'est-ce qu'il y a là-dessous » Le policier leva les yeux vers le trafiquant. « 10 bâtons de dynamite, » répondit-il. Booker se raidit, agrippa à nouveau les accoudoirs du fauteuil. « Enlevez-moi ces saloperies, enlevez-les tout de suite !»« Il y a quelqu'un qui ne vous a pas la bonne, Booker. 2 bâtons auraient largement suffi. »« Vous les enlevez, nom de Dieu !» Assis sur ses talons, Mankowski regarda le gangster et déclara. « Ah, il y a un problème, j'en ai peur. »« Quel problème ? Qu'est-ce que vous racontez ?» On a vidé presque tout le rembourrage de mousse. Au-dessus de la dynamite, il y a quelque chose de plat qui ressemble à un coussin en caoutchouc gonflable. « Alors sortez ces saloperies de là, puisque vous les voyez !»« Ouais, mais ce que je vois pas, c'est ce qui les fait exploser. Ça doit être derrière, là où le coussin s'ouvre. » Bah ouvrez-le ce coussin, la con ! Je peux pas vous être dessus. C'est probablement un système de déclenchement par pression, j'en suis sûr, mais je parierais pas que c'est ça. Vous parieriez, vous savez pas ce que vous faites ? Des engins, il y en a de toutes sortes, il faut que je le voie pour savoir ce que c'est, et si je peux désamorcer ou non, vous comprenez ? Si vous pouvez ou non, et attendez ! Le seul moyen d'y accéder, c'est d'éventrer le fauteuil. Éventrez-le, je m'en fous de ce fauteuil ! Seulement, je vais tomber sur le châssis et les ressorts... « Je sais pas trop, » ajouta Chris en secouant la tête. « Écoute, enfoiré, fais comme tu veux, mais vire-moi cet engin !»« D'un autre côté, c'est peut-être pas une bombe, » reprit calmement Mankowski. « Juste quelques bâtons de dynamite pour te flanquer la trouille. »« Sans que ça puisse exploser ?»«
Ouais. »«
Pour me donner une idée de ce qui pourrait m'arriver ?»«
Possible. »«
Alors je pourrais me lever et tout ce qu'elle m'a raconté au téléphone, ce serait du pipeau. »«
Peut-être, » dit Chris.
« Mais moi, je courrais pas ce risque. »« Vous le feriez pas, hein ?»« On demandera l'avis d'un collègue quand il arrivera. » « Faut que j'aille aux toilettes, ça urge !» Voilà donc l'extrait de ce roman, « Les fantômes de Détroit » d'Elmore Leonard. Elmore Leonard, c'est un auteur états-unien, né en 1925 à la Nouvelle-Orléans et mort en 2013 à Détroit. Il a commencé sa vie en tant que publicitaire. Il écrivait des textes publicitaires, donc, pour le compte d'une entreprise spécialisée. Il trouvait pas ça épanouissant et il a commencé à écrire des nouvelles de western à l'époque. Faut dire qu'on est dans les années 50, et à l'époque, c'était encore possible de gagner des sommes raisonnables en écrivant des nouvelles, et le genre du western à l'époque était très en vogue. Et son rituel avant de pouvoir vivre de sa plume, tous les matins, son rituel c'était de se lever à 5 heures et de se contraindre à écrire 2 pages avant d'aller travailler, avant même de prendre son café. Et son modèle littéraire c'était Ernest Hemingway. Donc chaque matin, avant d'écrire ces 2 pages, il lisait une page de L'Adieu aux armes. Pour lui, Hemingway, il écrivait des textes qui s'apparentaient à des westerns avec leur ambiance très, très virile. Et puis Hemingway, c'était un auteur très laconique, qui ne perdait pas son temps dans de longues descriptions de plusieurs pages, ou qui ne perdait pas son temps à s'apesantir sur la psychologie des personnages, et ça, Elmore Leonard, ça lui plaisait bien. Il a donc écrit des westerns pendant plusieurs années, et vers la fin des années 60, le marché a commencé à se tarir, et Leonard s'est orienté vers le genre en vogue à l'époque, le genre policier. Il a publié un roman intitulé The Big Bounce, traduit en français très récemment sous le titre Cinglé. Alors, quand le livre d'un auteur aussi célèbre met longtemps à être traduit, c'est mauvais signe en général. Et c'est vrai que c'est loin d'être son chef-d'œuvre. Mais d'un autre côté, on y voit déjà les prémices de son style unique, très nerveux, très réaliste, débordant d'action et de retournement de situation, violent mais en même temps plein d'humour. Alors, dans les années 70, il a continué encore à écrire un ou deux westerns, tellement il adorait ce genre. Mais il a fini par se consacrer exclusivement à la littérature policière jusqu'à la fin de sa vie. Alors, quoi qu'il en soit, même s'il a abandonné le western, au travers de toute son œuvre policière, on sent l'influence indiscutable des codes de ce genre-là. Chez Elmore Leonard, il n'y a pas de mystère à résoudre, jamais. Quand un crime est commis, on sait tout de suite qui l'a fait et pourquoi. Dans ce que l'auteur nous raconte, c'est pas l'enquête en elle-même, ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment les personnages vont être amenés à se rencontrer et comment ils vont être amenés à s'affronter. D'ailleurs, la manière de travailler d'Elmore est intéressante en elle-même. Tout au long de sa carrière, il l'a répété, lui, c'est pas l'intrigue en elle-même qui l'intéresse. Lui, d'abord, il imagine des personnages forts, avec une personnalité très développée, un passé très développé, et il les met dans des situations telles qu'ils vont forcément finir par s'affronter. Ses romans, il les écrit au fur et à mesure, et quand il écrit un chapitre, il a aucune idée de comment l'histoire va se finir, ni même il a aucune idée de ce qui va se passer 2 ou 3 chapitres plus loin. Et ça va même encore plus loin que ça. Dans ses romans, il n'y a pas toujours de héros clairement identifiés qu'on va suivre du début à la fin de l'histoire. D'un chapitre à l'autre, on va voir l'histoire du point de vue d'un protagoniste au point de vue de son antagoniste. Et chez lui, les personnages sont loin d'être manichéens, hein. Il n'y a pas vraiment de gentil ou de méchant en tant que tel. Chaque personnage a ses propres objectifs, plus ou moins avouables, et les retournements de situation sont légion. Et typiquement, vers la fin de chaque roman, tous les personnages, enfin ceux qui sont encore en vie à ce moment-là, ils vont se retrouver plus ou moins face à face, et souvent la situation va se régler à coups de revolver et de règlement de compte. Et c'est là que je vous disais qu'on sent encore l'influence des codes du western dans son œuvre policière. Alors ce qui est paradoxal, c'est que autant ces westerns se terminent jamais comme on l'attend, c'est-à-dire avec un duel dans la rue, devant le saloon, soleil couchant, autant ces romans policiers se terminent souvent dans des situations qui sont assez proches de ça. Là où ça saute aux yeux, c'est par exemple dans un de ses romans, quand un de ses personnages, qui s'appelle Raylan Givens, un marshal qui porte toujours un Staten sur la tête, a donné 24 heures à un malfrat pour quitter la ville de Miami, faute de quoi il l'abattra. Et évidemment, comme le malfrat n'a pas quitté la ville juste avant l'échéance, Givens retourne le voir, lui dit qu'il n'a plus que quelques minutes pour partir, le malfrat dégaine discrètement son arme sous la table, mais Givens dégaine plus rapidement et l'abat. C'est la scène initiale de la série Justified, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est une scène typée western, donc énormément, et pourtant qui vient d'un roman policier. Mais dans ces westerns, il n'y a jamais de scène de ce genre, alors que c'est plutôt là qu'on les attendrait. Pourquoi ? Elmore Leonard est très attaché au réalisme dans ses romans, et il dit que jamais dans les archives de l'époque, il n'est fait mention de tel duel. C'est une pure invention cinématographique, et comme ça n'existait pas dans la réalité, Leonard n'en veut pas. Alors pourquoi il en a inclus dans ses romans policiers contemporains ? Tout simplement, les temps ont changé, les armes sont devenues plus fiables, et ce qui n'était pas possible au XIXe siècle, à savoir dégainer son arme et toucher à coup sûr un homme à plusieurs mètres sans avoir le temps de viser. Donc ce n'était pas possible à l'époque, mais aujourd'hui c'est envisageable. Oui, d'une manière générale, Leonard est épris d'hyper-réalisme. Ses histoires se déroulent dans des décors réels, notamment les villes de Détroit et de Miami, où il a passé une grande partie de son existence. Et ses romans, ils sont constellés de détails incroyablement précis sur tel ou tel aspect, en apparence anodin. Du genre, comment voler une voiture sans laisser de traces d'effraction ? Comment voler tel modèle de voiture précisément ? Comment désamorcer une bombe ? Quel type de végétation pousse à tel endroit au Rwanda, etc. Des choses donc très précises et très détaillées. Il faut dire que l'auteur a embauché un documentaliste, Greg Sutter, avec lequel il a travaillé pendant une grande partie de sa carrière et qui lui a fourni au fil des années une mine d'informations sur tel ou tel quartier, telle ou telle région, tel ou tel métier, telle ou telle technique, jusqu'à la façon de parler des personnes qui vivent à tel ou tel endroit. Oui, parce que plus encore qu'autre chose, l'une des marques de fabrique d'Elmore Leonard, ce qu'il distingue des autres auteurs, c'est la façon dont il aborde les dialogues. Ce qui donne corps aux personnages dans ses romans, c'est la façon dont il parle. En adepte d'Hemingway, je le disais tout à l'heure, Leonard fait très peu de descriptions, il aborde très peu la psychologie de ses personnages. C'est vraiment par la façon dont ils parlent qu'on apprend qui ils sont, comment ils pensent, et c'est comme ça qu'ils acquièrent de l'épaisseur. À tel point que l'auteur dit que, une fois qu'il a trouvé des personnages intéressants, il les met dans une situation, les fait parler, et c'est la façon dont les personnages parlent qui va faire avancer l'histoire d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, si, après quelques chapitres, voire quelques pages, le personnage n'arrive pas à parler de façon intéressante, il est purement et simplement éliminé par l'auteur au profit d'un personnage plus intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on ne sait jamais ce qui va advenir dans une œuvre de Leonard, et qu'on n'est même pas sûr, avant plusieurs dizaines de pages, de qui sera le personnage principal de l'histoire. Et ça, évidemment, ça donne une saveur très particulière à ses œuvres. Alors, c'est assez inhabituel et c'est assez déstabilisant au début, parce que les histoires sont incroyablement complexes et les intrigues sont très denses dès les premières pages. Mais une fois qu'on s'y est fait, j'avoue que c'est difficile de pas trouver que les autres romans, en tout cas beaucoup d'autres romans, manquent de profondeur et sont pleins de longueur, et surtout c'est difficile de pas trouver que les personnages dans les autres romans sont devenus incroyablement plats. Ouais, les personnages, c'est le cœur d'une œuvre d'Elmore Leonard, comme je le disais. Tous les personnages évidemment sont très différents, mais on retrouve quand même quelques schémas récurrents. Déjà, ces personnages positifs, entre guillemets, parce que rien n'est jamais manichéen chez lui, sont en général des individus extrêmement cool. L'archétype du héros léonardien, c'est par exemple Raylan Givens, dont je parlais un peu plus tôt, qui est un marshal totalement décontracté, qui s'affole de rien et qui, si nécessaire, règle les problèmes à sa façon. Et parmi les antagonistes, parmi les criminels, on a souvent affaire à des demeurés, à des gaines petits qui sont tout en bas de la hiérarchie, à des individus qui agissent de manière irréfléchie, on se demande si oui ou non ils sont plus bêtes que méchants, tellement ils sont les deux à la fois. Une autre chose dont je dois vous parler aussi, c'est du rapport d'Elmore Leonard au cinéma. Son œuvre a beaucoup été portée sur le grand écran, et c'est vrai que sa façon d'écrire a tout pour plaire à Hollywood, des dialogues percutants, beaucoup d'action, très peu de descriptions, très peu de méditation psychologique, on a presque l'impression que le script est déjà écrit. Alors la plupart de ses 45 romans ont été portés au cinéma avec plus ou moins de succès. Plutôt moins que plus. Ouais, parce que son œuvre est très spécifique, comme je disais, tout repose sur la qualité des dialogues et la richesse des personnages, et le ton est très particulier, on n'est pas dans la comédie, l'histoire reste sombre et violente, mais on n'est pas non plus dans la tragédie. Et c'est pas toujours facile de trouver le juste milieu. Et les réalisateurs ont souvent manqué de jugeote et ont plus ou moins consciemment saboté l'œuvre de l'auteur en voulant enrichir une intrigue qu'ils trouvaient peu adaptée au cinéma, ou en voulant renforcer l'appartenance de tel ou tel personnage au camp du bien ou au camp du mal, etc. Bon, côté cinéma, ça a quand même fini par s'arranger, et pas qu'un peu, dans les années 90. Ouais, pour remettre les choses en perspective, il faut voir que l'auteur avait déjà près de 70 ans et 40 ans de carrière derrière lui, donc il a eu le temps d'attendre. Et alors, ironiquement, là encore, ça a commencé grâce à un fiasco cinématographique. Son roman La Brava, qu'il avait écrit dans les années 80, devait être porté au cinéma avec Dustin Hoffman dans le rôle titre. Puis le projet a traîné en longueur et Hoffman a fini par laisser tomber en disant que finalement non, ça l'intéressait plus tant que ça. Et ça, Leonard l'a pas très bien pris et il a écrit un roman intitulé Get Shorty. En français, ça a été traduit sous le titre Zigzag Movies. Mais Get Shorty, ça se traduirait plutôt par essayer d'avoir le ptio. Alors l'histoire, comme toujours chez Leonard, elle est difficile à résumer, mais bon, disons qu'il est notamment question d'un usurier qui rencontre un réalisateur de films de série B et qui décide d'écrire un nouveau film avec un acteur dans le rôle titre que l'on surnomme Shorty en raison de sa petite taille, mais qui se fait désirer avant d'accepter le rôle, oui ou non, on sait pas trop. Alors évidemment, Shorty, l'acteur de petite taille qui se fait désirer, c'est une référence à Dustin Hoffman, même si Leonard disait que sur le ton de la plaisanterie que « mais non, voyons, c'est pas le seul acteur de petite taille Hollywood quand même ». Et ce roman, donc, qui dénonçait certains travers du milieu du cinéma, a lui aussi été porté sur grand écran en 95, et là, comble de l'ironie, c'est la première fois qu'un excellent film a été tiré de l'œuvre d'Elmore Leonard. Le film a été réalisé par Barry Sonnenfeld, avec notamment John Travolta dans le rôle de l'usurier, Danny DeVito dans le rôle de Shorty, et c'est un grand succès. Et là, on se dit que le milieu du cinéma a enfin compris l'œuvre de Leonard, parce que c'est pas fini. En 97, Quentin Tarantino qui porte le punch créole de Leonard en Jackie Brown, l'histoire d'une hôtesse de l'air qui tente d'arnaquer à la fois le service des douanes et le truand pour lequel elle travaille. Alors pour la petite histoire, Tarantino a toujours reconnu qu'il devait beaucoup à Elmore Leonard, notamment la façon d'aborder les dialogues et la façon de mêler violence et humour. Et là où le film, à mon avis, c'est un véritable chef-d'œuvre, c'est qu'il arrive à la fois à être une adaptation très réussie du roman, tout en étant aussi un film très fidèle à la patte de Tarantino. C'est pas fini. En 98 sort Out of Sight, traduit par Hors d'atteinte, réalisé par Steven Soderbergh avec George Clooney dans le rôle du braqueur de banque qui s'évade de prison et Jennifer Lopez dans le rôle de la marshal kidnappée par le dit braqueur qui se retrouvent enfermés ensemble dans le coffre d'une voiture et finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. C'est, à mon avis, le meilleur roman d'Elmore Leonard et son adaptation sur le grand écran est également excellente. Ouais, mais la série chanceuse s'arrête là. Les films suivants sont bien en deçà en termes de qualité et, mine de rien, petit à petit, l'auteur a atteint son apogée et ses livres finissent par être de moins en moins bons. Bon, tout est relatif quand même, un mauvais Elmore Leonard, ça reste un très bon roman. Mais bon, on va lui pardonner, il a écrit de très bons romans jusqu'au milieu des années 2000, il avait quand même 80 ans et 50 ans de carrière à ce moment-là. Et c'est justement à ce moment-là qu'est portée sur le petit écran une de ses nouvelles, qui raconte l'histoire du marshal dont je vous ai parlé tout à l'heure, Raylan Givens, qui, suite à ce qui s'apparente à une bavure, est muté dans son Kentucky natal et doit y appréhender Boyd Crudder, un habitant du CRU qui est à la tête d'une organisation paramilitaire néo-nazie. Il se trouve que les deux hommes se connaissent bien, dans le temps ils avaient travaillé ensemble dans les mines de charbon du Kentucky. La série a duré 6 saisons, et là encore l'adaptation de l'œuvre de Leonard a été excellente, très fidèle, et Elmore lui-même l'a tellement adoré qu'il a écrit un roman, ou une collection de nouvelles pour être plus précis, qui faisait suite à la première saison de la série, et ces nouvelles ont elles-mêmes été en partie intégrées à la série. Le livre s'appelle Raylan, j'en avais déjà parlé dans La vie des livres, et c'est le dernier ouvrage que l'auteur a publié en 2013. Il est mort quelques mois plus tard, à 87 ans, alors qu'il était en train d'écrire son roman suivant, qui restera donc inachevé. Et il était littéralement en train de l'écrire, puisqu'il a succombé à une crise cardiaque devant sa machine à écrire. Voilà, une bonne quarantaine de romans ont donc été écrits par Elmore Leonard, la plupart ont été traduits en français, même si certains sont depuis longtemps introuvables. Alors, la plupart sont très bons, donc, mais si vous hésitez, je peux vous en recommander quelques-uns que je trouve excellents, au moins pour aborder cet auteur. Alors, vous êtes prêts, je vous conseille. Dieu reconnaîtra les siens, c'est une histoire qui commence au Rwanda juste après le génocide. Loin des yeux, cette histoire qui a été portée au cinéma avec Clooney et Lopez dans les rôles-titres, Ponche Créole, qui est à l'origine de Jackie Brown de Tarantino, et Les Fantômes de Détroit, dont je vous ai lu un passage en début de chronique. Tous ces livres sont disponibles facilement dans la collection Rivage Noir, les titres plus anciens sont disponibles chez d'autres éditeurs ou d'autres collections, mais ils sont difficiles à trouver. Voilà, c'était la crème du crime, merci d'avoir écouté cette chronique, la prochaine fois je vous parlerai d'un auteur états-unien, George Pelecanos. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.